Les As de la CoPro, les questions CoPro.
Vous êtes toujours sur les As de la CoPro et on enchaîne avec la dernière séquence, les questions CoPro. C'est toujours le même principe, des copropriétaires nous posent une question au téléphone, nos experts y répondent. Et on lance la première question.
Bonjour, je suis copropriétaire sur Paris et je voudrais savoir comment on peut procéder lorsque notre syndic est en liquidation judiciaire pour récupérer nos fonds qui ont déjà été engagés. Et comment pouvons-nous changer de syndic ? Merci aux As de la CoPro pour nous éclairer sur ce problème.
Merci pour cette question. Pierre-Edouard, liquidation judiciaire de son syndic. On fait comment pour s'en sortir ?
On allume un cierge à l'intention de Sainte Rita, pour commencer. C'est la sainte patronne des causes désespérées. Et non, mais sans plaisanter, si le syndic, personne morale, est en situation de cessation des paiements et que la situation est irrémédiable, le tribunal va prononcer cette liquidation et elle va emporter une cessation d'activité et une disparition de la personne morale. Mais cette cessation et cette disparition, elle est à terme. Elle est au terme de la procédure qui emportera la liquidation définitive. Et en sens, on confond parfois la procédure avec la finalité. Et c'est justement ce qui pose problème en matière de copropriété. Parce qu'au jour où l'ouverture est prononcée, le syndic existe encore. Et ça, c'est quelque chose qui a changé parce que la Cour de cassation avait une position qui était très favorable au syndicat des copropriétaires, pourtant avec un texte qui n'a pas changé. Mais elle avait une position qui était favorable parce qu'elle disait que le mandat se trouvait rompu du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation, ce qui permettait de pouvoir changer immédiatement, c'est-à-dire qu'un copropriétaire pouvait convoquer, puisqu'il n'y avait plus de syndic sans que l'Assemblée générale n'ait été convoquée pour se prononcer sur la désignation du syndic, et on appliquait la procédure de l'article 18. Mais cette jurisprudence, elle a changé, et elle a changé sur le fondement de l'article 641.11.11 du Code de commerce, qui nous dit que les contrats en cours ne sont pas résiliés de plein droit du fait de l'ouverture de la procédure. Et de ce fait, aujourd'hui, même si on a cette ouverture de la procédure, le syndic reste syndic. Donc a priori, on ne peut pas changer de syndic immédiatement. On va y revenir après sur la pratique qui peut différer de la règle, mais en principe, le liquidateur va exercer les fonctions du syndic, enfin, est-ce qualité de représentant de la personne morale qui est désignée syndic de copropriété, et dans ce cas, la voie qui va pouvoir être employée, et Mathieu en parlera tout à l'heure dans la pratique, c'est qu'on trouvera des palliatifs à cette situation difficile du mandat qui perdure.
Je sais pas si, Mathieu, vous faites comment, vous ?
C'est très
alors,
simple.
Alors, ce n'est pas Foncia, hein, parce que Foncia, évidemment, est en pleine santé,
mais
vous récupérez un immeuble et on vous appelle, un client vous appelle.
Voilà, la recommandation qu'on peut faire, c'est...
D'ailleurs, j'ai dit client, c'est un copropriétaire.
Un copropriétaire nous appelle pour des conseils. La recommandation, c'est de fuir le plus vite possible. Pierre-Edouard vient de le dire, le contrat, et c'est marrant parce qu'on en parlait à la séquence d'avant, le contrat existe, il continue à exister, il a une échéance calendaire qui peut être dans 2 ans ou plus, mais évidemment, le conseil, c'est de fuir au plus vite, puisque de toute façon, il n'y aura plus de prestations, hein, c'est assez probable. Il faut récupérer les fonds, Pierre-Edouard va en parler. Donc, notre recommandation, c'est d'organiser une assemblée générale, de demander au syndic de la convoquer ou passer le délai de mise en demeure de la convoquer soi-même, de manière à faire nommer un nouveau syndic. Donc là, on revient au sujet précédent. Est-ce que c'est une résiliation que le droit permet, que l'article 18 de la loi de 65 permet ? Peut-être pas.
Parce qu'il est empêché, le syndic ? On peut dire qu'il est empêché ? C'est un cas d'empêchement ?
Je dirais, peu importe. Il faut faire nommer un nouveau syndic. C'est peut-être pas une position très juridique, mais c'est une position purement pratique. Vous faites nommer un nouveau syndic. On le disait tout à l'heure, le mandat donné au nouveau syndic de facto éteint le mandat précédent. Se pose le sujet.
Le liquidateur pourra demander une indemnité.
Oui, mais en fait, il le fera pas. Voilà. Alors, il y a peut-être un minuscule risque, mais le liquidateur, il aura bien d'autres chats à fouetter. Il va s'occuper des créanciers, de la réalisation de l'actif, et certainement pas continuer à gérer des copropriétés. Il en aura sans doute pas la possibilité matérielle. Voilà. Et donc, il faut s'en aller au plus vite. Alors, oui, il y a une petite part de risque si un jour un liquidateur décide de faire un recours. Mais sincèrement,
Pierre-Edouard, un dernier mot.
Oui, j'allais dire habiller, non, mais pour justifier quand même, parce que c'est certainement possible. Les inexécutions, il va falloir les distinguer. Les inexécutions qui précèdent l'ouverture de la liquidation ne peuvent donner lieu qu'à déclaration de créance. Donc il ne faut pas se baser sur des inexécutions passées, mais des inexécutions postérieures à l'ouverture. Mais il est très vraisemblable qu'au jour de l'ouverture et dans les 6 mois qui vont suivre, le syndic ne fasse pas grand-chose, parce que comme c'était dit, le liquidateur va avoir bien d'autres choses à faire. Et donc il suffit... de documenter l'inexécution de ses fonctions par le syndic pour pouvoir justifier de la procédure de résiliation anticipée et donc de mettre en demeure le syndic de convoquer l'Assemblée Générale selon les termes hein, du texte qui a été récemment réformé. Et ça devrait permettre comme ça de s'en sortir et de s'en sortir en évitant des risques de complexité juridique, d'éventuelles poursuites en indemnisation du préjudice, etc. Il y aurait une autre solution qui serait de demander au liquidateur de mettre un terme au contrat en sollicitant le juge-commissaire, mais c'est quand même plus long, c'est plus complexe. Je pense qu'effectivement, le liquidateur...
Oui, on se fonde sur l'inexécution.
Et donc l'inexécution fautive postérieure à l'ouverture est certainement la solution à la fois pratique et juridique la plus efficace.
La plus sécure. Je vous remercie les As et on enchaîne sur la deuxième question du copropriétaire.
Bonjour, j'habite dans une grande copropriété à Strasbourg. Notre gardienne d'immeuble ne fait pas toujours très bien son travail et ce n'est pas très aimable avec les copropriétaires. Le conseil syndical lui a déjà fait des remontrances. En retour, elle a déposé une plainte pour harcèlement. Pouvez-vous nous dire qui a raison et qui a tort ? Je vous en remercie.
On change complètement de sujet. On est sur une gardienne qui pose problème dans un immeuble. En tout cas, les relations sont conflictuelles. Le conseil syndical met son nez dedans. Le syndic, il s'en occupe aussi. Mais bon, on est dans l'impasse. Vous avez bien entendu la question, Mathieu. C'est quoi votre solution ? Qui fait quoi ?
Bon, alors, pour commencer, il faut rappeler quelques principes fondamentaux. Le gardien ou l'employé d'immeuble, hein, je rappelle, gardien logé, employé d'immeuble non logé, ne sont pas salariés du syndic. Ils sont salariés du syndicat des copropriétaires. Et salariés du syndicat des copropriétaires, ça ne veut pas dire salariés des copropriétaires ou d'un copropriétaire pris individuellement. Donc, clairement, l'employeur, c'est le syndicat des copropriétaires et le représentant de l'employeur, et on y revient encore, c'est son mandataire, c'est le syndic. Et donc, pour le coup, l'état du droit est hyper clair sur la gestion du gardien ou du salarié du syndicat des copropriétaires. C'est le syndic qui doit intervenir, qui assure cette gestion. La loi lui donne d'ailleurs des pouvoirs qui sont vraiment importants, hein, puisqu'il décide lui-même d'engager, de congédier le personnel. Finalement, l'Assemblée Générale fixe le nombre et, j'allais dire, la qualité des emplois. Mais après, en théorie, le syndic peut décider de congédier...
tout seul.
Alors, si c'est fondé, hein, mais tout seul, sans demander l'avis de personne d'autre, sans réunir l'Assemblée Générale ou sans même demander l'avis du Conseil syndical. Dans la pratique, évidemment, c'est un peu plus compliqué, et notamment au quotidien, parce que le syndic n'est pas tous les jours dans l'immeuble, contrairement aux résidents. Contrairement souvent aux membres du conseil syndical, en particulier au président du conseil syndical, et qui peut avoir tendance à accompagner le gardien, à le guider, voire quelquefois à le manager. Or, clairement, c'est pas son rôle. Clairement,
le conseil syndical ne peut pas faire de remontrance au gardien.
Voilà, le conseil syndical ne peut pas faire de remontrance. Le pouvoir de direction, hein, ou le management,
le lien de subordination
appartient au syndic. Et c'est bien à lui de remplir cette fonction. C'est une des fonctions principales, hein. C'est à lui d'encadrer le gardien, de lui donner des instructions et, le cas échéant, si c'est nécessaire, de lui faire des remontrances, de fixer des objectifs d'amélioration. Mais voilà, le représentant de l'employeur.
Parce que là, la gardienne, leur gardienne est quand même allée déposer une plainte pour harcèlement. Alors, est-ce que c'est justifié ou pas ? Mais en tout cas, on en est là. Alors, que doit faire le syndic ?
Ah ben le syndic doit être très clair, il doit intervenir auprès du copropriétaire qui devient peut-être un peu trop insistant ou qui...
Et c'est là qu'il faut être un fin politique.
Et là, il faut être un fin politique et expliquer, faire preuve de pédagogie et expliquer au copropriétaire qu'il y a un vrai risque pour le syndicat des copropriétaires, que chacun doit rester dans son rôle et que effectivement, hein, il y a un risque. Alors peut-être pas de harcèlement, que le syndicat soit condamné pour harcèlement parce que, encore une fois, c'est pas l'employeur qui harcèle mais un tiers finalement, hein, le copropriétaire. Mais il y a des cas de jurisprudence où le syndicat a été condamné parce que on considère que l'employeur n'a pas garanti la sécurité de son employé, n'a pas suffisamment agi pour faire cesser ces interventions externes sous forme, enfin qui prennent la forme de harcèlement. Et donc clairement, le syndic doit faire deux choses. Hein. La première, c'est être pédagogue et expliquer à ses clients, donc au conseil syndical, qui doit faire quoi. C'est normal qu'il y ait une collaboration, on peut l'appeler comme ça, entre le conseil syndical, les résidents et le gardien sur les choses quotidiennes. Mais en revanche, le management et les remontrances doivent venir du représentant de l'employeur. Et la deuxième chose, il faut que le syndic prenne son courage, et quand il y a des choses désagréables à dire au gardien, bah c'est son boulot. Il ne faut pas qu'il laisse un président de conseil syndical qui peut-être a plus d'expérience que lui sur le sujet, mais non.
Et
c'est
des choses désagréables à dire au président du conseil syndical aussi, et parce voilà, que Pierre-Edouard, on parle de la responsabilité civile hein, des professionnels hein, du syndic.
Oui, le syndic engage sa responsabilité, mais d'abord et avant tout, c'est le syndicat qui va engager sa responsabilité en tant qu'employeur. Il y a un arrêt fameux de la Cour de cassation sur ce sujet qui avait été rendu en 2011 et qui avait rappelé que l'employeur doit faire cesser l'éventuel harcèlement, à défaut de quoi le syndicat engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1152.1 du Code du travail, qui rappelle qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, etc. Et c'est le deuxième article 4121.1 du Code du travail qui rappelle que l'employeur a une obligation en matière de sécurité et qu'il doit faire en sorte qu'il n'y ait pas ce genre d'atteinte. Mmh. Et en conséquence, le syndic, puisque c'est le représentant qui ne ferait pas cesser ce type d'atteinte, engage sa responsabilité, donc syndicat en 1 et syndic en 2, s'il n'a rien fait pour informer, faire cesser, etc. Donc le syndicat pourrait tout à fait se retourner, oui, contre le syndic qui serait défaillant, qui n'aurait pas informé les copropriétaires, qui n'aurait pas pris d'action pour faire cesser le harcèlement, et qui aurait de ce fait engagé la responsabilité du syndicat qu'il représente.
Eh bien, je vous remercie. Alors, peut-être que Jérôme, vos alternants auront affaire à des situations conflictuelles. On leur souhaite, mais c'est le boulot. Mais s'ils sont bien encadrés, c'est comme ça qu'ils apprendront ce métier passionnant et très, très enrichissant. On l'a bien vu sur le plan humain, mais sur le plan juridique aussi. Je vous remercie, les As de la CoPro. Nos deux autres As, Alexis Sabrina, nous rejoindront hein, sur les prochaines émissions. On était sur une nouvelle formule, un nouveau format. J'espère que ça vous a plu. Jérôme Javazo, merci beaucoup d'avoir assisté, participé à cette émission. Et je remercie l'ensemble de nos auditeurs et je leur dis ciao ciao, à la prochaine.
Les As de la CoPro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.